Ça fait 15 ans qu'on est qu'au Studio Zef.
Est-ce que vous connaissiez Studio Zef, la radio de Blois?
Moi, non.
Non,
non.
91.1, ça se règle. Et après, vous écoutez la radio. Donc là, en ce moment, on nous entend à la radio, on est en direct.
Ah,
ça,
d'accord, c'est en direct.
C'est en direct, ouais.
Eh ben, bonjour ceux qui nous regardent, ou qui nous écoutent.
Qui nous écoutent, ouais, parce qu'il y a le son, mais il n'y a pas
l'image. Bonjour, bonjour. Studio Z, Studio F, Zef. Oh là là, bon.
Studio Zef, 91.1 FM.
Bonjour et bienvenue sur Radio Studio Zef, à écouter sur France 91.1. Reprise après la classe de TCVA de ce matin, en ma compagnie, Marc et moi-même, Nausicaa, deux élèves de première TCVUJ, soit technicien, conseiller, vente, univers jardin. D'autres TCVUJ et Horti seront présents. On est en direct du lycée Horticole de Blois.
Bonjour Nausicaa, c'est un plaisir d'animer avec vous.
De même pour moi, cher Marc. Comment allez-vous aujourd'hui?
Eh bah, ça va bien, le soleil. Bon, pas le soleil, mais ça va bien.
Eh bien, moi aussi, je vais bien. Merci de demander.
Recevons aujourd'hui les comédiens qui ont joué et qui continuent de jouer aujourd'hui une pièce de théâtre.
Messieurs, dames, pouvez-vous vous présenter nom et prénom, si possible?
Je commence. Nom, prénom, profession. Nédélec, Yannick, comédien et auteur.
Je suis Laure Mandrou, responsable de la compagnie Prométhéâtre. Voilà, comédienne et metteur en scène.
Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui?
Bonne question. Pourquoi on est venu aujourd'hui? Non, c'est parce que c'était super bien payé. Non. Le lycée de l'Horticole de Blois, il croule sous les subventions et les cachets, c'est top. Non, en fait, on est venu partager la bonne parole, enfin une parole qu'on pense bonne, pour animer des séances de théâtre forum, c'est-à-dire qu'on ne joue pas complètement une pièce de théâtre, on n'en joue qu'un extrait, et l'extrait ouvre sur une problématique qui permet de lancer un débat avec les spectateurs, qui deviennent des spectacteurs. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la pièce de théâtre que vous avez jouée ce matin?
C'est pas moi qui vais en parler le mieux, parce que moi j'en suis le principal responsable, puisque j'en suis l'auteur, donc je peux pas être juge et partie, donc je confie le micro à ma complice Laure.
Alors cette pièce qu'a écrit Yannick, hein, c'est lui l'auteur, met en scène deux personnages qui représentent vraiment deux univers différents, deux manières de penser le monde différentes. Voilà, donc l'histoire... C'est un journaliste qui se demande un peu ce qu'il y a dans la tête de ceux ou celles-là qui dirigent une énorme entreprise qui vend du vent. Le spectacle s'appelant « Tout se vend, même le vent ». Voilà, donc il monte à l'assaut et c'est un peu ça, puisque c'est un peu compliqué. Les personnes qui ont beaucoup de pouvoir s'isolent énormément, se protègent énormément. Et donc ce journaliste va quand même finir par avoir un rendez-vous. En fait, j'accorde ce rendez-vous. Je suis Madame Pascale Timmy, PDGère. Je vais lui accorder ce rendez-vous pour essayer de me débarrasser de lui. Et à l'occasion, on n'a pas présenté cet extrait le matin, mais elle le fait filer, elle prend des renseignements sur lui. Enfin, ça ne se passe pas d'une manière si sympathique que ça. Elle prend voilà, des précautions avant de le recevoir, avec vraiment l'idée de le bouler. Quoi. Voilà. Sauf qu'il s'agrippe un petit peu et qu'il va essayer de pousser cette PDGère dans ses retranchements pour avoir son opinion personnelle, c'est-à-dire au-delà de sa fonction de grande PDGère qui fait du fric, qu'est-ce que vous, madame, vous pensez de la privatisation de la nature, qui est un sujet qui est important, parce que privatiser la nature, bien évidemment, ça veut dire que, qui veut dire privé, dit propriété privée, donc tout le monde ne peut pas posséder, tout le monde ne peut pas avoir. Et c'est la majorité, d'ailleurs, des personnes sur cette terre qui, la plupart du temps, ne possèdent rien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien. Voilà. Donc, il va s'acharner. Et puis, pour moi, c'est assez désagréable de subir les assauts de ce monsieur. Voilà. Donc, il va me poser plein de questions qui me mettent mal à l'aise. Donc, on voit très bien que mon personnage est plein de mauvaise foi. Il faut quand même dire les choses. Souvent, je botte en touche. J'essaie d'éviter par des formulations un peu bizarroïdes qui veulent parfois strictement rien dire, hein, faut le dire. Voilà. Mais cette pièce ne résout rien. C'est-à-dire, à la fin, il n'y a pas un bon et un méchant. Il y a un débat sur des choses qui sont hyper importantes pour nos vies. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai à peu près...
Très bonne explication. Vous ne pouvez pas en demander plus. Avez-vous d'autres questions, cher Marc?
Oui, j'en ai une. Ce serait combien de temps environ vous a pris l'écriture de la pièce ?
Là, c'est forcément moi qui réponds. C'est toujours difficile d'évaluer le temps d'écriture parce qu'avant le temps d'écriture, il y a forcément un temps de préparation, de réflexion, de construction d'un scénario, de définition des personnages. Donc, entre l'amorce du projet et le point final sans rature, disons 4 ou 5 mois, environ. Pas forcément à plein temps, hein, parce qu'il y a des fois, faut un peu laisser refroidir pour mieux reprendre après. Mais en y pensant quotidiennement et en faisant des bonnes séances d'écriture parfois de 4-5 heures dans la journée, 4-5 mois, je dirais, ouais, à peu près.
Ah oui, quand même. Ce matin, c'était un théâtre forum, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce type de théâtre, cette pratique?
Alors, le théâtre forum, ça a été inventé il y a très 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 longtemps. Ça a été popularisé par un comédien, un metteur en scène brésilien, Augusto Boal. Et ça répondait à des problématiques d'ouverture du théâtre vers des gens qui traditionnellement n'y ont pas accès, n'ont pas les moyens de se payer très cher des places de théâtre dans des beaux théâtres parisiens. Et puis, c'est un théâtre essentiellement social. Souvent, les théâtres forums traitent de problématiques sociales, sociétales, des problèmes d'opprimés. D'ailleurs, Augusto Boal dirigeait une compagnie qui s'appelait le Théâtre de l'opprimé. C'est pour essayer de débattre tous ensemble, de manière populaire et démocratique, de sujets de société. Alors, il y a des sujets qui sont devenus très, très à la mode dans le théâtre forum. Très à la mode, hélas, parce que c'est quand même des signes de malaise de nos sociétés, des problèmes de sexisme, des problèmes de harcèlement, des problèmes d'injustice. Et là, nous, on propose une séance de théâtre forum dans le même esprit, mais très axée sur l'écologie. Et on constate que si on creuse un petit peu toutes les problématiques écologiques, on dérive très vite vers des problématiques purement politiques. Et là, ça enclenche un autre niveau dans le débat, mais ce n'est pas notre objet ici. Au lycée de Blois. On reste vraiment sur le terrain écologique.
Et est-ce que vous faites que des théâtres forums ou ça vous arrive de faire du théâtre comme ça ?
Alors, pas du tout. C'est même assez exceptionnel qu'on fasse du théâtre forum. C'est à la faveur du sujet qu'a développé Yannick, on s'est dit. Et les élus, d'ailleurs, de notre ville qui sont venus voir notre travail, ont dit, mais ce serait vraiment intéressant que vous alliez vers des jeunes pour pouvoir, justement, pas forcément présenter votre pièce, mais justement susciter ce questionnement. Mais ça n'est pas dans nos habitudes, en ce sens que le Premier Théâtre a plutôt, je dirais, une vocation assez classique. Et c'est certainement lié à ma formation. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. J'aime beaucoup les auteurs du 19e siècle. Et je me passionnais pour une dame que vous connaissez au moins de nom, parce qu'il y a des noms de rue qui portent son nom. C'est George Sand. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs spectacles sur George Sand, qui est une femme assez extraordinaire. Et puis, sur d'autres femmes, Simone de Beauvoir, qui est importante pour nous. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le deuxième sexe et qui parle justement de la difficulté pour les femmes d'être reconnues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres à part égale avec les hommes. Donc il y a beaucoup de débats à lancer sur la parité, sur la relation homme-femme, sur les violences faites aux femmes, etc. Ça n'a pas fait partie de mes sujets, mais c'est vrai que souvent la femme revient dans mes spectacles. Voilà. Mais la compagnie intervient aussi beaucoup en milieu scolaire. On a un missionnement du conseil départemental pour un théâtre autour de la lecture et le théâtre au collège. Voilà, donc il y a beaucoup d'interventions. Et puis il y a aussi, dans un autre cadre, des ateliers théâtre qui, pour moi, sont importants parce que sont vraiment des lieux d'épanouissement, d'expression, qui permettent de faire non pas du théâtre forum, mais de mettre un petit peu ses tripes dehors et de prendre la place de personnages qui parfois portent nos valeurs. Voilà. Mais dans la compagnie, je fais aussi des spectacles pour enfants. Donc, dans la période de Noël, je tourne un petit peu dans la région pour présenter ces spectacles-là. Donc, c'est relativement éclectique.
Vous travaillez en groupe, je suppose, donc dans une compagnie. Pouvons-nous en apprendre un peu plus sur celle-ci ?
Alors, la compagnie Premier Théâtre, c'est une compagnie que j'ai créée. Donc, ça s'appelle Premier Théâtre à cause de Prométhée, qui, comme vous le savez, a donné le feu aux hommes, créant ainsi les arts et les artisanats. Et je considère que le théâtre, c'est un artisanat. À la fois, c'est un art, mais c'est aussi, il y a toute une mise en œuvre matérielle, d'où le nom Prométhéâtre. Voilà. Et j'exerçais avant en tant que comédienne indépendante et j'ai eu vraiment envie de monter des projets collectifs. Et au tout départ, c'était même avec l'idée qui s'est un petit peu éloignée dans un deuxième temps, de faire participer le plus possible des jeunes acteurs sortant des écoles. Voilà. Donc mes premiers projets ont permis à des jeunes qui sortaient du conservatoire d'avoir le pied à l'étrier, de participer à des productions qui pouvaient être jouées une trentaine de fois, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc cette compagnie existe depuis 1996.
D'accord. Mais bien, moi j'ai fini mon quota de questions. Est-ce que tu en as d'autres ?
Oui, j'en aurais une autre. Comment vous êtes venu à devenir comédien dans votre vie, du coup ?
Comédien ou comédienne, évidemment.
Oui, alors comment devient-on comédien ? Il y a quand même un côté de vocation, là. Hein. On m'a pas obligé à devenir comédien. Plutôt, mes parents m'ont dit, comédien, non, c'est pas un métier. Donc, fais-toi d'abord une petite collection de diplômes et puis après, tu feras ce que tu voudras, quoi. Mais j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours aimé le théâtre, la musique. Et donc, j'ai commencé, il y a tellement longtemps, je suis tellement vieux maintenant. J'ai commencé par une carrière d'humoriste en one-man show et puis petit à petit, j'en ai eu un peu marre d'être seul sur scène et j'ai voulu retrouver le plaisir du partage sur scène pour jouer des pièces à plusieurs personnages. Et puis, il y a une quinzaine d'années maintenant, il y a eu Laure Mandreau et m'a vu en one-man show. Et puis après, elle a dit « ce gars-là, il faut que je le recrute ». Et ça a été le début d'une longue collaboration. On a créé déjà 6 spectacles ensemble. On fait en moyenne un tous les 2 ans. Hein. C'est ça. Voilà.
Alors, moi, ça ressemble un petit peu en ce sens que mes parents n'étaient pas du tout favorables à ce métier-là, que j'ai découvert quand j'avais à peu près 15 ans. Je participais dans le fin fond du Berry à une société folklorique qui, tous les ans, montait un spectacle de théâtre. Et donc, j'ai interprété justement un personnage d'un roman de George Sand. Et j'ai adoré monter sur scène, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, dès que je suis arrivée à Tours, je me suis inscrite au conservatoire. J'ai été reçue. Je suis partie l'année suivante à Paris parce que je trouvais que c'était nul. C'était trop vieillot ce qu'on nous enseignait au conservatoire à Tours. Voilà, et j'ai travaillé avec des metteurs en scène différents, des gens qui faisaient du théâtre plutôt à méthode américaine, un autre qui venait du Brésil, bref. Et j'ai fini assistante à Paris avec un de ces professeurs-là. Et j'ai décidé de revenir à Tours et de fonder un théâtre. Voilà. Et dans un premier temps, j'exerçais uniquement, je dirais, pour apprendre aux autres à en faire. Et puis après, j'ai monté une compagnie et on se retrouve à ce que j'ai dit tout à l'heure en 1996. Mais mes parents ne voulaient absolument pas que je fasse ce métier. Donc j'ai toujours eu des vies parallèles pendant tout le temps que je faisais du théâtre, puisque j'ai fait des études de droit, d'anglais et d'allemand. Voilà. Donc ça se payait, la liberté se payait. Et puis je trouvais des petits boulots pour payer ma carte de train pour aller à Paris. Enfin voilà, je sentais que c'était vraiment chevillé au corps et personne ne pouvait m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Mais ça m'a demandé un petit peu de courage quand même, de ténacité pour fonder une compagnie et puis surtout en vivre, puisqu'en fait moi je n'ai jamais eu d'autre métier que celui de comédienne.
Une très belle raison de devenir comédienne, ma foi. Marc, avez-vous d'autres questions ou...
Non, ce sera tout.
Bon, et ben, moi aussi, je n'ai plus de questions. Vous remercie d'être passé. Merci d'avoir pris de votre temps.
Mais avec plaisir.
J'espère que le lycée vous a plu, que vous avez pu
profiter. En tout cas, on est très, très bien accueillis ici. Oui. Oui. Bon. Vous avez de la chance d'étudier ici.
Il y a merci. Bien de...
Ah, oui, vous êtes dans un cadre super agréable avec des gens apparemment très bienveillants, très accueillants et très ouverts.
Oui,
profitez,
en effet.
Profitez.
On ressent vraiment par le fait qu'il y a à la fois c'est un grand lycée de par la spatialisation. Vous avez, je crois, 5 hectares ou quelque chose comme ça. Hein, il me semble qu'il y a 5 hectares de terre. Voilà, donc il y a de l'espace et ça, c'est extrêmement agréable. Et en même temps, on sent un esprit de famille. Il y a quelque chose, c'est pas comme dans d'autres établissements où on avait l'impression d'un gigantisme où tout le monde est un peu noyé, est un numéro. C'est pas ce qu'on ressent quand on arrive dans votre lycée. Donc ça, c'est vraiment tout à fait plaisant. Et puis l'accueil qu'on a reçu de votre part, même si certains n'ont pas participé, en tout cas, il y avait vraiment un respect, une écoute qu'on est tout à fait à même d'apprécier. Parce que ce n'est pas forcément, même dans un spectacle, hein, sans parler d'une confrontation comme ce matin, parfois, il y a des personnes qui sont extrêmement indélicates, ce qui n'est pas du tout votre cas. Donc, merci pour cet accueil.
Eh bien, merci à vous également.
Merci à vous.
Enchaînons de suite avec les premières orties qui vont nous expliquer quelle est leur filière. Donc Louane, Pedro, c'est à vous. On vous laisse nous expliquer votre filière.
Bonjour.
Soyez à l'aise.
Bonjour. Du coup, moi c'est Pedro et je suis en première ortie au CDI première CPH, conduite de production horticole du lycée horticole de Blois. Nous sommes préparés au milieu professionnel pour devenir patron dans une entreprise horticole ou employé.
Pour ça, on nous enseigne des gestes et des mots techniques comme le rempotage, le détensage, le bouturage, le semis et l'entretien des plantes et des serres et plein d'autres choses cool.
Excuse-moi, Loane, je veux bien te poser une question. Ouais. Tu as précisé quelques mots techniques. Pour ceux qui nous écouteraient, est-ce que tu pourrais expliquer, pas tous, mais au moins certains mots techniques pour que les gens comprennent un peu de quoi tu nous parles?
Alors, le rempotage, c'est d'une plante en godet, on le met dans un pot beaucoup plus grand pour qu'elle prenne sa place. Et le distensage, c'est des plaques de plantes qu'on met au sol pour ne pas gêner les autres qui sont déjà, et on les met en quinconce.
En gros, on les met un sur deux pour que ça évite de se toucher, qu'ils se touchent et qu'ils ont un peu plus de place pour se développer.
D'accord, merci beaucoup d'être passé. On enchaîne avec qui déjà?
Si je vous dis Star Academy, vous me répondez?
Pierre Garnier, musique.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai. Peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. C'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné.
suite les annonces du jour en ce début d'après-midi au lycée horticole de Blois. Se déroule la suite de la journée de développement durable.
Au programme des activités sur le recyclage, un exposé sur les hérissons et les mégots, quiz autour des poules et une dissection de pelotes de réjection.
Ainsi que la création d'une fresque du climat, un théâtre, construction de niches pour les oiseaux.
Mais Nouzika, tu peux nous en dire plus, c'est quoi la journée du développement durable? Parce qu'on en parle, mais personne ne sait ce que c'est.
La journée du développement durable, aussi appelée la JDD, est une journée banalisée pour sensibiliser sur les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution.
Pas mal, j'aime bien.
Mais oui, et sans plus tarder, enchaînons sur notre premier thème, la vie au lycée.
Nouzika, rappelle-nous, le plateau radio se situe dans le lycée?
Dans la salle B0, qui fera office de studio radio, avec table de mixage, 4 micros, une enceinte.
Bah, on va essayer d'en savoir plus sur le lycée.
Si on veut tout savoir, laissons nos lycéens les mieux placés pour en parler. Louane, Audrey n'étant pas là, on la remercie quand même d'avoir fait l'effort de travailler, on dit plus.
Dédicace à toi, Audrey.
Des petits bisous. Luna, élève de première ortie, avec comme sujet le casse-tête des emplois du temps.
Accueillons-les, mesdames, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Louane, première ortie.
Bonjour, je m'appelle Luna, première ortie aussi.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des emplois du temps, leurs contraintes et leurs organisations. Nous allons commencer par poser des questions aux élèves, puis aux professeurs, sur leurs emplois du temps, et ensuite interviewer Madame Rinteau, qui est proviseure adjointe au lycée horticole de Blois.
On peut avoir des demandes particulières sur peut-être une demi-journée dans la semaine. Après, je dirais que l'emploi du temps, il est ce qu'il est. On doit s'adapter à notre emploi du temps. Voilà, il y en a qui sont plus du matin, d'autres qui préfèrent travailler l'après-midi. Moi, je suis sur un cas particulier car je suis sur les deux sites. Je suis sur Vendôme et sur Blois. Donc, j'ai 2 jours à Blois et 2 ou 3 jours à Vendôme. Donc après, je peux avoir des journées plus chargées que d'autres, mais on va dire que sur l'échelle d'une semaine, on organise notre travail et on sait que bah, des fois, ça peut être un peu plus chargé, des fois un peu plus souple. Donc voilà, après, on sait qu'on a quand même une latitude, on peut quand même travailler un petit peu les emplois du temps en début d'année. On a des demandes, mais on ne peut pas, on va dire, contenter tout le monde. À un moment donné, il faut bien travailler, donc il faut bien placer les heures. Après, si je me mets à la place des élèves, bien sûr qu'il y a des choses qui seraient à mettre en place au niveau, je dirais même un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on sait que vous, les élèves, vous avez un rythme, avec, au niveau on parle de l'horloge circadienne, avec plutôt vous couchez tard et vous levez plus tard, normalement. Donc dans l'idéal, ça serait de commencer les cours à 10-11 heures et les finir à 16-17 heures. Mais voilà, au niveau national, ça ne se fera pas. Et dans l'idéal, moi j'aimerais aussi commencer peut-être plus tôt et que vous soyez libéré à 14 heures pour pouvoir faire des activités par la suite.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est suffisant au travail que vous avez au cours?
Alors pour ma part, je suis 2 jours sur Blois, je peux avoir des moments où c'est chargé, où je peux avoir 7-8 heures de cours dans la journée. Clairement, pour moi, la pause méridienne, il faut au minimum avoir 1 heure. Mais on va dire 1 heure, j'estime que pour moi, c'est suffisant pour manger en 30-40 minutes et avoir 15-20 minutes de pause.
Le professeur que nous avons interrogé s'appelle Denis Limousin et est professeur de biologie. Bonjour, en quelle classe êtes-vous?
Bonjour, je suis en première ortie.
Aimez-vous votre emploi du temps?
Oui.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est suffisant au cours que vous avez dans la journée?
Ça dépend, parce que par exemple, le jeudi, on finit à midi, il me semble, et on reprend à midi 30, 40.
Aimeriez-vous plus de travaux pratiques en matière générale et ou en pro?
Moi, je pense que c'est assez équitable.
Aimeriez-vous rajouter des heures de cours particuliers? Si oui, lesquelles?
Pas forcément. Peut-être plus de cours en MAP pour les auxiliaires et tout ça.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je me présente, je m'appelle Léa Daridan. Je suis en terme TCVA.
Aimez-vous votre emploi du temps?
Il est plutôt bien. Il y a juste un jour dans la semaine, le jeudi, qui est plutôt chargé, où on n'a pas beaucoup de trous. Enfin, on n'a même pas du tout. Et c'est un peu compliqué. Enfin, les heures, c'est soit 1h30, 2h, 2h30. Enfin, c'est un peu...
Aimeriez-vous rajouter des heures de cours particuliers? Si oui, lesquelles?
Avec nos profs, on en a un peu discuté sur des heures, par exemple, de tutorat pour nous, pour avancer le dossier ou des devoirs en particulier qu'on n'y arrive pas. Ça peut être une bonne idée à mettre en place.
Aimeriez-vous plus de travaux pratiques en matière générale et ou en pro?
Oui, ça serait bien, en sachant que là, on approche... On est dans les CCF, les examens. Il faudrait qu'on ait plus de pratiques pour qu'on s'entraîne plus, pour qu'on soit bien pour tout ce qui est examens et CCF.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est suffisant au cours que vous avez dans la journée?
Oui, c'est suffisant.
Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Mylène Attardy, je suis en classe du CAP Fleuris deuxième année.
Aimez-vous votre emploi du temps ?
Oui, il est divers et varié et j'ai du temps pour me consacrer à mes devoirs.
Aimeriez-vous rajouter des heures de cours particuliers, si oui, lesquelles ?
Des aides dans les matières plutôt comme les mathématiques et le français.
Aimeriez-vous plus de travaux pratiques en matière générale et ou en pro ?
Bah, vu que je suis en CAP Fleuris, j'ai déjà des matières pratiques constamment, donc non.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est suffisant par rapport aux cours que vous avez dans la journée ?
La pause de midi est convenablement assez grande.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, bonjour, donc je suis Madame Doualan, enseignante en fleuristerie pour les CAP fleuristes en art floral.
Aimez-vous votre emploi du temps ?
Oui, ça, c'est bien proportionné même pour les élèves, donc oui.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est assez suffisant par rapport aux cours que vous avez dans la journée ?
Pour la semaine, oui, à part le vendredi. Le vendredi midi, ça fait à peine trois quarts d'heure. Autrement, donc ça va.
Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Lana Rancin, je suis en première TCVA.
Est-ce que vous aimez votre emploi du temps ?
Le nôtre est assez bien, oui, j'aime bien.
Aimeriez-vous rajouter des heures de cours particuliers, si oui, lesquelles ?
Non, aucune.
Aimeriez-vous plus de travaux pratiques en matière générale et ou en pro ?
Non, je pense pas, parce que on va dire on a déjà suffisamment de cours. Après, je pense c'est plus par rapport aux absences des professeurs que les cours pourraient déranger. Parce que forcément, on a suffisamment d'heures de cours, mais il n'y a pas souvent les profs. Donc là, ça peut causer problème.
Est-ce que vous trouvez que le temps de pause méridienne est assez suffisant par rapport aux cours que vous avez dans la journée ?
Ça peut dépendre des jours, parce qu'en fait, des fois, il nous arrive d'avoir une demi-heure de pause. Et dans la file d'attente du self, ça peut être compliqué.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc je m'appelle Valérie Rintot, je suis la directrice adjointe d'AgroCampus des Deux-Vallées, responsable du site de Blois et plus précisément du lycée horticole de Blois.
D'accord, nous allons vous poser quelques questions sur les emplois du temps, notre thème. Donc du coup, quelles sont les contraintes à prendre en compte pour créer un emploi du temps ?
Alors, pour créer un emploi du temps, ça peut être un petit peu compliqué, comme ça pourrait être assez simple. Les éléments à prendre en compte, d'abord la pédagogie, qu'est-ce qui est important, essentiellement, j'ai envie de dire principalement, plutôt les disciplines professionnelles, mais également l'ensemble des autres disciplines. À cela, en termes de contraintes, on va ajouter les contraintes personnelles des enseignants, mais aussi les contraintes qui sont liées à l'utilisation de certains espaces, comme par exemple le gymnase, les laboratoires, ou des salles ou des espaces spécifiques au sein de l'établissement. Ensuite, on réfléchit à la cohérence pédagogique de l'ensemble de ces éléments et de ces contraintes, de façon à ce qu'on ait des séquences qui soient assez fluides dans l'emploi du temps et qu'on évite de regrouper toutes les disciplines générales en même temps et toutes les disciplines professionnelles d'un autre côté.
Quand commencez-vous à faire l'emploi du temps ?
Alors l'emploi du temps, il commence à se réfléchir déjà à la fin de l'année scolaire précédente, préparer les projets aussi des enseignants pour l'année scolaire suivante. Et ensuite, on les travaille une fois qu'on a recruté l'ensemble des enseignants. Donc très souvent, je commence à partir du mois d'août, pendant l'été, de façon à ce qu'ils soient absolument prêts, à peu près 8 jours avant la rentrée scolaire, pour en informer les enseignants.
D'accord, donc cela vous prend 8 jours, environ.
Sur l'ensemble de la préparation, on peut compter au moins une semaine à une dizaine de jours, même si la construction en tant que telle sur le logiciel de l'emploi du temps va prendre 24 à 48 heures. Le temps de placer les séquences qui sont prioritaires, les séquences secondaires, ce qu'on appelle faire tourner la moulinette et ensuite placer manuellement tout ce qui va bloquer. Donc en fait, c'est un jeu et ça s'appelle un Tetris dans un objectif de placer l'ensemble des cours nécessaires à la réussite pédagogique des jeunes.
D'accord, et du coup, vous devez le faire toute seule ou pas ?
Alors ça se fait seul, même si ça nécessite en fait une relation avec l'équipe enseignante, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver pour de la cohérence pédagogique et aussi dans le respect de contraintes particulières que certains enseignants pourraient nous donner, notamment liées à l'utilisation surtout de certains espaces comme le gymnase ou comme les serres par exemple.
Donc, en conclusion, la plupart des élèves et des profs trouvent leur emploi du temps adapté, sauf le jeudi et le vendredi, car il y a un manque de temps pour certaines classes pour la pause méridienne, à cause de la file d'attente qui nous fait perdre du temps. Ce que les élèves auraient aimé rajouter comme cours sont des heures d'aide en maths et en français,
plus de cours en MAP et des aides pour les dossiers de certains examens. Dans l'ensemble, il n'y a pas assez de pratiques en pro et en général, sauf pour les CAP.
En réponse à toutes ces questions, Madame Rinto nous a expliqué qu'un emploi du temps n'est pas facile à faire car il y a plusieurs contraintes.
J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais si Madame Rinto nous écoute, elle pourra peut-être nous donner la réponse. Ce serait de savoir si, par exemple, les emplois du temps, est-ce qu'ils peuvent être conservés plusieurs années d'affilée ? C'est-à-dire pour la même classe, on pourrait conserver le même emploi du temps peut-être sur 3 ans, voire 4 ans d'affilée.
J'imagine que non, parce que il y a les profs, ils changent. Il peut y avoir des profs absents. Il peut y avoir certains examens qui peuvent court-circuiter l'emploi du temps. Et puis, il y a plusieurs contraintes que Mme Rinto doit prendre en compte par rapport à la vie des profs ou à leur temps de... Car ils sont obligés aussi de demander une journée, ouais, une moitié de journée.
Ou même une journée entière où ils n'ont pas cours avec des élèves.
Ok, très intéressant.
En effet, c'était très intéressant. Avez-vous des choses à nous dire plus ou on peut vous dire au revoir et merci d'être passé ?
Non, c'est bon.
Eh bien, merci d'être passé.
Eh bien, de rien.
Au plaisir de vous revoir.
Au revoir.
J'en veux un peu moins aux profs, moi, en tout cas.
La même. Trêve de bavardage.
Petite pause, instant. Coucou maman, je t'aime beaucoup. Je passe là juste pour te le dire. J'ai le droit, je suis animatrice. Ensuite, nous accueillons donc les 3 L. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, c'est Luherne.
Bonjour, je m'appelle Louis Poudoulet.
Bonjour, je m'appelle Loane.
Et également présenter votre thème, si vous le pouvez.
Alors, on travaille sur la vie du lycée, tout ce qui est activité.
Ok, intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le thème que vous avez pris ?
Alors, au lycée Horticole, on a la chance d'avoir des ateliers et activités mises à disposition par le lycée. Certaines sont programmées comme l'AS, c'est l'association sportive. Ça permet d'avoir un accès à la salle de sport et à des séances, et aussi des matchs contre des jeunes de l'extérieur.
Il y a aussi des activités qui sont improvisées. Il y a aussi l'AESA, qui comporte des jeux comme un billard, un baby-foot. Il y a aussi une télévision, une buvette et des canapés et des fauteuils. Il y a la salle de musique qui est un espace qui peut être utilisé librement, mais il faut demander à la vie scolaire. Et il est constitué d'un groupe de musique dont nous faisons partie.
Comment s'appelle votre groupe de musique ?
Il s'appelle Poudouski.
Donc, petite question, le nom il vient d'où ? Genre, comment vous avez trouvé le nom ?
Alors ça revient à deux noms de famille de deux personnes dans le groupe. Donc moi et mon camarade Luherne. Comme on n'avait pas d'idée de nom et qu'on a cherché pendant un certain temps, on s'est dit bon bah on va assembler deux noms de famille et puis ça a pondu Poudouski.
Un nom, je vais l'avouer, qui est très original, franchement.
Merci.
Est-ce qu'on peut avoir les deux noms séparés et complets pour avoir une petite idée ?
Alors moi c'est Poudoulek.
Et moi c'est Mouchenski.
Merci. On vous laisse du coup enchaîner sur votre dialogue.
Donc là on va vous présenter quelques personnes interviewées pour savoir la vie des gens, s'ils sont heureux dans les activités, tout ça. Est-ce que vous faites des activités dans le lycée ?
Non, mais j'ai déjà participé à des activités vite fait, comme ça.
Quel type d'activité ?
Bah, dans le groupe de musique, par exemple, j'ai déjà assisté quelques fois. Ça dépendait de mon temps libre.
Est-ce que vous étiez acteur ou vraiment vous étiez juste spectateur de cette situation ?
Spectateur.
D'accord. Vous avez déjà été dans le foyer, utilisé les jeux du foyer, qu'est-ce que vous avez fait là-bas ?
Bah, j'ai déjà utilisé le billard, puis un peu le baby-foot aussi.
Ok, très bien. Est-ce que tu penses que ça manque de jeux ? Est-ce qu'ils devraient rajouter certaines choses ?
Non, pas spécialement.
Est-ce que tu serais d'accord que je te parle du foyer et savoir ce que t'en penses ?
Oui.
Donc, est-ce que t'as déjà fait une activité dans le lycée ou dans le foyer ?
Oui.
Lesquelles ?
On a fait une sortie avec la LESA où on a fait du laser. J'ai perdu le nom.
Ok, très bien. Tu as déjà fait d'autres activités ? Ça peut être par exemple club musique, club sportif, l'AS ?
Non.
Ok. Est-ce que... Tu trouves que le foyer est en bon état ? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de jeux aussi ?
Bah, le foyer est en plus ou moins bon état, du moins qu'on puisse faire. Et après, niveau jeu, ça va.
D'accord. Est-ce que si tu devais rajouter quelque chose, enfin, qu'est-ce que tu choisirais si tu devais rajouter quelque chose ?
Potentiellement une cible avec des fléchettes.
Est-ce que tu fais des activités dans le lycée ?
Non, c'est-à-dire ?
Activités, est-ce que tu peux faire, par exemple, le club musique, l'AS, club de sport ?
Non.
Est-ce que tu as déjà été dans le foyer ?
Oui, plusieurs fois.
Et qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait des activités dedans ? Il y a des jeux ? Est-ce que tu les utilises ?
J'ai déjà fait plusieurs parties de billard, après, pas plus que ça.
Est-ce que tu trouves que les jeux sont en bon état ? Est-ce qu'il manque des choses au foyer ? Est-ce que tu penses qu'il devrait rajouter quelque chose ?
Non, ouais, je trouve que c'est bien.
Faites-vous des activités dans le lycée ?
Non.
Est-ce que vous avez déjà fait des jeux dans le foyer ? Est-ce que vous trouvez que les jeux sont en bon état ?
Non.
Mais attends, mais le baby-foot, il est claqué au sol. Non, la vérité, il est... il est pas droit. Il est le truc qui se dévisse tout le temps. Et c'est rouillé.
Est-ce que vous avez déjà été dans un des clubs du lycée ? Il y a deux clubs, de toute façon, la salle de muscu et la salle de musique.
Non, aucun.
Faites-vous des activités au lycée ?
Non.
Je trouve qu'il n'y a pas d'activité à faire, donc j'en fais rien.
Alors, je sais qu'il y a l'AS, qui est en lien donc avec le club de musculation, et il y a le club de musique. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé un des deux ?
Bah, j'en ai essayé aucun. L'AS, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça, donc je ne me suis pas inscrit.
Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux du foyer ? Est-ce que vous trouvez que les jeux sont en bon état ?
J'ai joué qu'au baby-foot, donc le billard, je ne sais pas si c'est bien ou s'il est en bon état ou pas. Mais sinon, baby-foot, il est un peu vieux, je trouve.
Et si vous deviez rajouter un jeu, vous mettrez quoi ?
Un jeu ? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Franchement, aucune idée, hein, mais mettre autre chose qu'un billard, parce qu'il n'y a que les riches qui jouent à ça, donc autre chose, s'il vous plaît.
Faites-vous des activités, enfin, est-ce que tu fais des activités dans le lycée ?
Non.
D'accord, très bien. Est-ce que tu connais les activités club de muscu, club de musique ?
Ouais, mais c'est que pour les internes, ça.
Et je voulais savoir si, du coup, t'avais déjà pensé à vouloir aller là-bas ou essayer ?
Bah ouais, en fait, le truc de la salle de muscu, on est allé demander à Monsieur Fort, il nous a dit non, c'est que pour les internes.
D'accord. Est-ce que tu joues au jeu du foyer ? Est-ce que tu trouves qu'ils sont en bon état ?
Bah, j'ai fait que le baby-foot. Je trouve qu'il est assez en mauvais état. Genre, les bâtons, ils glissent mal et tout. Puis, il n'y a pas souvent la balle.
Et si tu devais rajouter un jeu, ce serait quoi ?
Oula, j'ai pas d'idée.
Donc, on remarque que les lycéens ont pas mal d'activités, sachant qu'on est quand même dans un lycée. Je n'ai rien à rajouter.
Nozika, t'as quelque chose à rajouter ?
Non, du tout. Non, mais vous ?
Non, moi ça va. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère qu'au moins les informations qu'ils vous auront données vous auront permis de comprendre un peu mieux les activités qu'il y a dans le lycée. Et merci à vous, les 3L, de nous avoir expliqué un peu.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci. Avant le prochain thème basé sur la littérature, une petite musique.
Petit quiz. Si je vous dis « J'irai où tu iras ».
Céline Dion. Merci Océane de la participation, c'était très gentil de ta part. Donc on écoute du Céline Dion avec « J'irai où tu iras ».
Chez moi les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Les eaux d'étang sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras me serre.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers.
Des caravanes et des voyages comme sur les
sur la ligne. Petit instant dédicace, bien sûr, que je vais faire. Une dédicace à Madame Auchard, notre prof de technique horticole. Dédicace à Madame Daprato, notre prof de français, qui nous a permis de faire ce projet aujourd'hui. Dédicace aussi à Clémentine, qui nous aide et qui assiste aussi le programme et l'émission. Et dédicace à Faustine, le Lefebvre. Alors, continuons. Après Cindy, continuons sur de douces paroles sur le thème de la littérature.
Oh, génial. Moi qui n'y connais rien, je vais peut-être en apprendre plus.
Tout de suite, accueillons Rose qui nous parle d'un livre basé sur la poésie appelé « La geste permanente de gentil cœur ».
Rose, bienvenue.
Merci. Ce livre est un livre écrit par Fanny Carello. Ce livre part d'une femme qui arrive dans un parc. Elle s'assoit sur un banc et une autre femme lui dit bonjour. Et trois jours de suite, Fanny Carello part dans ce parc et cette femme lui redit bonjour. Fanny Carello tombe amoureuse de cette femme et décide d'aller dans ce parc faire du vélo dans l'espoir de la croiser. On y découvre comment pendant un mois, tous les jours, cette femme a parcouru à vélo le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais afin de croiser cette personne. Quand elle arrive au parc, elle écrit beaucoup de poèmes, elle écrit aussi le récit de ses journées, elle imagine sans cesse la voir, elle imagine sa surprise quand elle lui dira qu'elle l'attend. Mais en attendant qu'elle arrive, Fanny Carello commence à prendre des photos de ce qu'elle voit, comme des signes au bord de l'eau, une femme âgée qui promène son chien, le paysage. Fanny Carello a aussi noté toutes les dates où elle est allée dans ce parc, comme le mercredi 19 juin ou le vendredi 31 mai par exemple. Au fil du temps, Fanny Carello oublie presque l'objectif qu'elle s'était donné et ne retrouvera jamais celle qu'elle attend.
D'après Geste permanente de gentil cœur, qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas si tu l'as lu en entier, qu'est-ce que t'as aimé dedans ?
J'ai aimé les poèmes qu'elle a écrits, j'ai aimé les photos présentes dans le livre et le fait qu'elle décrive ce qui s'est passé chaque jour à cette date précise par exemple, enfin à une date précise.
Ok, intéressant. Tu as d'autres questions, Nausicaa ?
Non, du tout.
Je vais vous montrer une bonne annonce faite par Marc et Loane.
Je débute dans l'existence, encore que pas tout à fait comme toi. Donc, une asso me commande une expo de photos et de textes sur le bassin minier où j'ai grandi. Et je passe plusieurs jours à sillonner le bassin minier à vélo avec mon appareil photo et mon carnet. Et deux mercredis matins de suite, je croise cette jeune athlète et elle me sourit. J'ai revu un petit peu mon adolescence et j'ai eu envie d'en parler. J'ai commencé à écrire une très longue lettre à cette jeune fille.
Quelle est l'importance de la photographie dans votre travail ?
Il se passe des choses quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. Je suis toujours fascinée par l'imperceptible, par ce que personne ne regarde, par ce que tout le monde trouve insignifiant.
On a le sentiment au fil des pages que cette jeune fille n'est plus le sujet au bout d'un moment.
Oui, et d'ailleurs, la toute fin le dit, j'ai oublié un peu en chemin le but, mais en toute chose, je pense que c'est ce qu'on fait. Et ce que j'aime quand j'écris, c'est pas d'accomplir quelque chose, c'est d'avoir découvert plein de choses que je ne pensais pas trouver. C'est ce qui fait que chaque fois que je débute un texte, c'est toujours avec la même passion, la même envie. C'est comme tomber amoureux tous les jours, en fait, un peu.
À propos de Fanny, elle n'en est pas à son premier livre. Elle a écrit tout au long de sa carrière plus de 28 livres dans différents genres. Des livres pour la jeunesse, des livres de poésie comme « La geste permanente de gentil cœur » qui est inspiré de la poésie médiévale. J'aimerais vous lire un extrait de son livre que nous avons étudié en classe. Ce parc est devenu un substitut ou une allégorie de toi et le chemin de chez moi jusqu'à lui. Sa longue extension, mais qui sait si tu vis encore parfois hors de mes heures et que je fais d'une mauvaise fortune, l'expérience où si tes pieds lui disaient adieu. En ce mercredi d'été, où la première fois tu m'as souri. Fanny est venue nous rencontrer au lycée au mois de février. Elle nous a dit qu'elle a commencé à écrire parce qu'elle n'avait pas beaucoup de liberté et que ses parents ont mal pris le fait qu'elle soit lesbienne et que l'écriture lui a permis d'exprimer ce qu'elle ressentait par rapport à ça. Elle nous a dit que son livre est un livre de genre médiéval et qu'elle a écrit son livre en 11 vers parce qu'elle aime les nombres impairs. Elle nous a aussi dit que les photos présentes dans le livre sont les vraies photos qu'elle a prises quand elle écrivait ses poèmes. J'aimerais maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Ce livre est très bien raconté, j'ai aimé l'histoire de ce livre, mais par contre j'ai été déçue qu'elle ne retrouve pas celle qu'elle aime à la fin de l'histoire. Ce livre m'a fait de la peine pour l'autrice parce qu'elle n'a jamais réussi à retrouver la personne qu'elle aimait, même si Fanny Carello a pu écrire ce livre au final.
Que Rose, t'étais quand même impliquée dans le livre parce qu'on entend que tu dis que t'étais quand même déçue, c'est-à-dire que t'étais quand même dans l'histoire avec l'autrice.
Oui.
Très intéressant.
Maintenant, je vous laisse écouter l'interview d'une amie qui aime la littérature et surtout la poésie.
Okay. Dans la littérature.
Parce que cela me permet de vivre les histoires que je lis. Voilà. Quels sont vos genres de livres préférés ?
Les BD, les mangas.
Si vous pouviez vivre dans un genre de livre style poésie ou roman ou manga, dans quel univers voudriez-vous vivre ?
Manga. Manga.
Que penses-tu de la poésie ?
J'aime bien, ça va.
Quel genre d'histoire aimez-vous le plus ?
Je kiffe les histoires d'action.
Est-ce que vous lisez vos livres sur papier ou sur tablette ?
Non, sur mon téléphone et souvent sur papier. Ouais.
Pensez-vous que c'est bien d'adapter un livre en film ?
Certains oui, certains je dirais non. Ce serait mieux de les garder sur en livre, c'est tout. Franchement, certains livres, je me disais, non, ça reste en livre. Si c'était en film, ça irait pas du tout.
Très bien. Pensez-vous que les jeunes ne lisent pas suffisamment de livres ?
Non, pas vraiment. Je trouve que les jeunes lisent autant de livres que les adultes. Hein. Ça change pas.
Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions.
De rien.
Continuons dans le thème encore. Merci à Rose pour cette présentation. Continuons encore dans le thème de la littérature pour voir ce que ça ferait d'être libraire et de vendre des livres. Bien sûr, je pense que c'est une question que vous avez déjà tous posée, mais auquel vous n'avez pas vraiment eu de réponse parce que vous et moi ne sommes pas dans le métier. On va se demander qu'est-ce que ça fait de vendre des livres. On va maintenant laisser place à
trois élèves. Lucie, Julia et Grégor nous en parlent avec la vie d'un libraire.
Bonjour, je suis Grégor.
Bonjour, je m'appelle Julia.
Et moi, c'est Lucie. Dis, Grégor, tu vas souvent à la librairie ?
Non. Et toi, Julia, tu vas souvent en librairie ?
Oui, je dirais pas souvent, mais de temps en temps.
Ah oui ? Et tu vas où ?
Je vais généralement à l'espace culturel Leclerc, au centre-ville. Mais vous savez qu'il y a aussi la librairie Labbé ?
Ici, nous allons faire des interviews à la librairie Labbé.
Oh ouais, c'est trop une bonne idée.
Question pour nos auditeurs qui seraient peut-être pas de Blois. Où se trouve la librairie Labbé ? Est-ce que vous pourriez nous la situer ?
En plus simple, je dirais qu'elle se trouve à côté des marches de Denis Papin.
Intéressant. Je pense que tout le monde arrive à visualiser les marches de Denis Papin.
Bon, bah là, on va vous passer les interviews.
Bonne journée, au revoir.
C'est quoi être libraire aujourd'hui ?
Être libraire aujourd'hui, c'est plus qu'être simplement commerçant. C'est un métier de conseil et surtout culturel parce qu'on est là pour, en plus de répondre à nos clients qui cherchent quelque chose de précis, mais aussi proposer des livres, des ouvrages qui peuvent enrichir et puis rendre les gens qui sont curieux encore plus curieux.
Quel type d'ouvrage se vend le plus dans votre librairie ?
Actuellement, ce qui se vend le plus, c'est beaucoup la littérature. Que ce soit un livre de poche ou en grand format, et pour tous les âges, que ce soit pour les adultes ou pour les ados ou les enfants. Et puis ce qui marche bien aussi en ce moment, c'est les guides de voyage. Les gens ont envie de partir et profiter.
Comment vous choisissez vos livres ?
En fait, choisir nos livres, c'est un travail quand même qui est assez important, parce qu'en fait, on travaille les bons de commande des nouveaux livres qui arrivent par rapport à notre clientèle. On fait attention à ce que nos clients habituel ou non achète, et on essaye de prendre nos choix par rapport à ce qui parle mieux, est-ce que les gens préfèrent et sur les modes du moment. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup d'étudiants qui viennent grâce au Pass Culture. Ils achètent, par exemple, beaucoup de mangas ou beaucoup de livres sur la mode ou des choses comme ça. Donc, on essaye de leur offrir des possibilités et des choix pour eux. On étudie à chaque fois ce que le client souhaite acheter.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Je crois que c'est découvrir la diversité des livres qui existent. On a des choses assez classiques, comme on a des choses complètement... des livres sur les cigares, des livres sur des thèmes complètement hallucinants et qu'on... la sexualité au Moyen-Âge ou des choses complètement... qu'on ne s'attendrait pas à lire. Et c'est ça, en fait, c'est de la curiosité, en fait, découvrir plein de choses. C'est ça, c'est par les moyens du livre.
Est-ce qu'il y a des difficultés dans ce métier? Si oui, lesquelles?
Oui, malheureusement, on a un gros concurrent qui s'appelle Internet. Et parfois, maintenant, les auteurs choisissent d'éditer le livre eux-mêmes et de les vendre directement par Internet. Du coup, nos clients qui ont vu un livre sur une publication Instagram, Facebook ou autre qui leur plaît et qui est par Internet, nous, on ne peut pas l'avoir. Donc, c'est ce côté, on a des difficultés parfois à recevoir des livres pour des clients. Et autrement, grosse difficulté, c'est que vu que maintenant tout le monde peut écrire des livres, on a un tel choix qu'on peut malheureusement pas tout lire et on peut pas forcément connaître tous les ouvrages. Et notre clientèle, pareil, quand ils viennent nous voir, on peut pas forcément toujours les conseiller parce qu'il y a des ouvrages qu'on connaît pas. Malheureusement, on dort la nuit, donc on peut pas lire 24 sur 24.
Quel genre de livre préférez-vous ?
Moi, personnellement, je suis très fan de livres de cuisine, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est livres de science-fiction et livres d'histoire aussi, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est chacun qui choisit son sujet.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Après, moi, je vous conseille peut-être plus l'autre marque. Au niveau du prix, c'est le même. Hein. C'est juste que... elle est vraiment consacrée au Canada Ouest, donc vous n'allez pas, avoir tous les États-Unis en plus.
Quel genre de livre préférez-vous ?
L'histoire de l'art.
Préférez-vous les livres numériques ou papier et pourquoi ?
Papier, parce qu'il y a de la matière, on tourne la feuille.
Pourquoi venir en librairie ?
Parce que c'est un lieu de rassemblement, de découverte et puis d'échange.
Merci beaucoup. Préférez-vous les livres numériques ou papier et pourquoi ?
Je suis plus team papier parce que c'est plus agréable d'avoir un livre entre les mains. On a vraiment la texture, on a vraiment la sensation d'avoir un livre, comme si le livre avait une âme, alors que sur un livre, sur une tablette ou sur un PC, c'est moins amusant, on lève juste ou sinon on appuie juste sur le côté. Il y a moins la saveur, moins l'amour du livre, on va dire.
Quel ouvrage avez-vous choisi ?
Là j'ai choisi un livre, ça s'appelle Le Golem de Gustave Meinrich. J'ai vu que ça pouvait être assez intéressant parce qu'il a dit lui-même dans la quatrième de couverture qu'il est inspiré de H.P. Lovecraft, qui lui écrit des livres qui peuvent être un peu difficiles à lire, pas dans le sens difficile avec une difficulté où c'est difficile à comprendre, mais dans le sens où il peut y avoir des choses qui retournent l'estomac. Et j'en ai déjà quelques-uns et c'est toujours super à lire.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci. Quel genre de livre préférez-vous ?
J'aime beaucoup les livres de cuisine, étant donné que c'est mon métier. Je suis cuisinière. Les livres sur le jardinage, les BD, les romans graphiques. Voilà à peu près.
Préférez-vous les livres numériques ou papier et pourquoi ?
Quand je voyage, je préfère les livres numériques parce que je voyage souvent en sac à dos sur plusieurs jours, voire semaines, voire mois. Et du coup, ça pèse moins lourd dans mon sac. Et chez moi, je préfère les livres papier. Pour le plaisir du toucher, de manipuler.
Pourquoi venir en librairie ?
C'est tellement évident de venir en librairie plutôt que d'être devant son PC à scroller Amazon. Parce que j'aime beaucoup le référencement qui est fait ici, le choix, les livres mis en avant. Parce que j'aime venir sans forcément chercher quelque chose et plus me laisser happer par mes recherches et ce que je trouve. Et pour la qualité du conseil, le fait qu'ici on se sent bien, je peux manipuler des livres, j'ai jamais eu une réflexion sur le fait que par exemple je feuilletais un livre. Bon, j'en achète pas mal aussi. Et voilà, parce que je trouve qu'ils sont très commerçants.
Quel ouvrage avez-vous choisi ?
Je vais probablement acheter un livre d'Hugo Clément,
qui s'appelle « Les lapins ne mangent pas de carottes » et qui est une réflexion sur notre rapport aux animaux. Comment est-ce qu'on les traite, l'imaginaire qu'on projette dessus. Les moutons sont un peu imbéciles, on les suit, les porcs sont sales, les loups sont méchants, etc. Et comment déconstruire ça pour en fait mieux prendre soin de la nature et des animaux. Et au lieu de les réduire à ce qu'ils ne sont pas. Merci. Avec plaisir.
Majoritairement, les personnes préfèrent les livres papier pour avoir de la matière et de prendre plaisir à lire. Aller en librairie, c'est aller dans un lieu de regroupement, d'échange, de partage, de découverte et d'apprentissage, d'après les témoignages.
Julia et moi-même adorons lire et aller en librairie car nous avons beaucoup de choix et de conseils adaptés. N'hésitez pas à aller en librairie et surtout à l'abbé pour trouver tous vos ouvrages préférés.
Très sympa ce reportage. Au moins on aura appris quelque chose d'intéressant, que les lapins ne mangent pas de carottes. Je pense que vous le saviez déjà, mais petite information comme ça. Vous avez fini ou vous avez encore quelque chose à rajouter sur votre thème?
Bah, personnellement, je n'ai rien à rajouter, moi. Après, je sais pas.
Non plus.
À part s'il y a des questions, non.
Nezika, une question de ta part?
Oui, moi je veux savoir vos thèmes préférés, si possible, de livres.
Mes thèmes sont assez variés, j'aime un peu de tout, mais en ce moment, je suis un peu plus sur les romans, bon, dites dark romance. Mais après, je lis aussi beaucoup de mangas et puis de romans naturels, quoi.
Moi, j'aime beaucoup les romans policiers ou les livres. On ne peut pas dire qu'ils datent, mais qui sont assez vieux. Qui... Oui, ils sont assez vieux.
Est-ce que moi, je ne lis pas.
Est-ce que je peux vous demander plus précisément, c'est quoi de la dark romance?
La dark romance, c'est un genre littéraire. C'est souvent de la littérature sentimentale. La romance interdite, parce que ça parle de beaucoup de choses interdites en général. Donc amour, désir, violence, et ça peut aller... jusqu'à très très loin, on va dire ça comme ça. Et c'est mis en scène, voilà. Et il faut faire souvent très attention parce que beaucoup de jeunes vont acheter des livres de dark romance et souvent c'est pas leur âge parce que ça peut parler de beaucoup de choses qui peuvent être traumatisantes ou faire ressortir beaucoup de choses.
Après, je sais que certains auteurs, dans leurs livres, ils vont s'inspirer de traumatismes déjà vécus par d'autres personnes ou par... eux-mêmes.
Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller en librairie, car en librairie, on pourrait être conseillé, alors que sur Internet, on ne l'est pas, forcément. Et en allant en librairie, on aura des bons conseils, on pourra savoir quel livre serait plus adapté à notre âge ou à nos goûts, en fait, finalement. Et du coup, petit moment prévention, la dark romance est souvent 18 et plus, donc faites attention. Voilà.
Merci pour cette présentation.
En effet, merci beaucoup.
Petite question.
Un public de qualité également.
Petite question pour toi, Nozika. Vu qu'on est encore dans le thème de la librairie, tout ça, tout ce qui est livre, est-ce que toi, t'aimes lire?
Non. Si, je lis un livre en ce moment.
Et c'est quoi un peu les livres que t'aimes lire en général?
Les dinosaures. Ah, j'aime trop les dinosaures. Les dinosaures. Après ce petit passage de Grégoire, Lucie et Julia, on enchaîne directement sur une musique, spécialement sur le Loir-et-Cher, chantée par Michel Delpech. A tout de suite.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche en Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher,
dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
S122, j'espère qu'on ne vous a pas perdu en route. Passons de suite aux difficultés maraîchage d'horticulture et les aléas du métier. Un reportage de Khadija Faucine-Antoine.
Bonjour.
Bonjour.
On pourrait, pour que les gens sachent quelle voix appartient à qui, présentez-vous.
Bonjour, moi je m'appelle Faustine Lefebvre.
Moi c'est Antoine Berthaud.
Et moi c'est Khadija.
Ok, parlez-nous un peu de votre thème. Comme on a pu le voir, c'est maraîchage et horticulture.
Oui, aujourd'hui, nous allons vous présenter des interviews sur la difficulté dans les maraîchages et l'horticulture, les aléas du métier. Place aux interviews des élèves et profs, puis nous passerons aux interviews des professionnels. Merci de votre écoute.
Je m'appelle Audrey Zinou-Sautron et je fais partie de la classe première Horti TCVUJ.
Alors, première question. Pour vous, comment les maraîchers font face aux aléas dans leur culture ? Les pertes économiques ou la perte climatique, etc.
Donc moi je suis Béatrice Delarmre, je suis enseignante en travaux paysagers. Alors il est vrai que en fonction de la météo qui se présente aussi bien en période hivernale ou en période estivale, il est vrai qu'ils sont obligés de s'adapter. Donc c'est-à-dire que là, cet hiver on a eu beaucoup d'eau, donc je pense que ça a eu un impact sur les cultures, notamment les cultures racinaires. Et en période estivale, la problématique, c'est qu'ils peuvent être en manque d'eau. Donc s'ils n'ont pas de réserve d'eau, eh bien, en fait, ça a un impact sur leur culture, sur le poids des cultures, parce que souvent, c'est au poids. Et donc, ça a un impact financier.
Alors, monsieur Limousin-Denis, je suis enseignant en biologie et écologie au lycée horticole. Il est vrai qu'ils sont de plus en plus soumis à des catastrophes naturelles et comme beaucoup de personnes, eux, c'est leur revenu qui disparaît. Après, certains sont certainement rassurés, mais c'est vrai que la répétition des sinistres doit être compliquée à gérer pour certains maraîchers. Après, c'est un métier où on travaille avec le temps, donc clairement, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, d'essayer d'anticiper en tout cas ce qui peut se produire avec des infrastructures qui peuvent aussi éviter des désastres.
Deuxième question. En quoi la culture maraîchère peut être considérée comme une entreprise difficile ?
Par exemple, dans la difficulté du maraîchage, il y a la météo. Imaginons qu'il y a un ouragan ou une tornade, ça peut tout détruire. Puis ça dépend des personnes. Il y en a, ils ont plein d'employés ou il y en a, ils sont tout seuls. La plupart du temps, je crois, ils sont tout seuls.
Eh bien, en fait, c'est un métier qui est fait avec les aléas climatiques. C'est-à-dire que, je donne un exemple, par exemple, les choux de Bruxelles, s'ils gèlent, il va falloir les cueillir. Et ça met plus de temps à cueillir, puisqu'en fin de compte, la culture est gelée. Et ainsi de suite, ça peut être les poireaux, les carottes, etc. Et en période estivale, le fait d'être au quotidien dans un champ en plein soleil, notamment sur le secteur de Contres, là où ils ont beaucoup de champs de culture, j'en sais rien, moi, les courgettes, les fraises, etc., peut avoir un impact en fait sur leur travail. Parce que travailler en pleine chaleur, c'est difficile. C'est un métier qui est difficile.
Je dirais difficile, on vient de le dire, vis-à-vis, c'est qu'on dépend beaucoup du climat, tout simplement. Du temps qu'il peut faire, même s'il y a de la planification, ça tombe pas toujours comme on le souhaite. Et difficile aussi, tout simplement, même si il y a de la mécanisation, etc. C'est quand même un métier difficile au niveau physique en tout cas.
Bonjour, donc je me présente Joël Ledé, je travaille au lycée horticole. J'ai comme diplôme un CAP et un BEP, 10 ans ville de Paris et 30 ans au lycée horticole. Alors le maraîchage, c'est beau, c'est joli, on est en plein air généralement. Par contre, c'est un métier très très dur, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. C'est un métier qui est hyper intéressant par contre, pas moi qui va vous dire le contraire, mais par contre au niveau énergie humaine, c'est très très important. Il faut une vie de couple, c'est compliqué, il faut les enfants, c'est compliqué. C'était bien peut-être il y a une quarantaine d'années quand l'épouse et les enfants après l'école continuaient à aider leurs parents. Maintenant c'est plus du tout ça, les enfants mènent leur vie de leur côté. Donc généralement les personnes se retrouvent toutes seules dans leur entreprise et psychologiquement c'est très dur. Donc en plus de le problème psychologique, il y a, comme vous venez de dire, donc tout ce qui est question climatique, tous les aléas. On ne peut pas savoir le temps qu'il va faire demain, même avec la météo. Il peut y avoir une gelée qui va vous ravager votre culture. Il peut y avoir des insectes, il peut y avoir des maladies. Tout ça fait que économiquement, ça devient très très dur. Les gens, ils sont prêts à payer un téléphone à 800 euros, mais ils ne sont pas prêts à payer une botte de poireaux à 2-3 euros le kilo.
Et la dernière question, est-ce que ce métier vous intéresse ? Si oui, pourquoi ?
Bah, du coup, oui, sinon je ne serais pas dans le lycée. Et depuis petite, j'ai une relation avec les plantes assez sympa. Voilà.
D'accord, merci.
C'est un métier hyper intéressant parce qu'on part avec rien. Ça veut dire une petite graine, généralement, qu'on fait semer, qu'on fait pousser, qu'on cultive, que l'on plante, qu'on récolte. Et le fait de ramener de quelque chose du début jusqu'à la fin, c'est comme un gamin, un adolescent, un bébé qu'on démarre et puis qu'on l'emmène, on l'éduque et il vole de ses propres ailes. Donc là, la culture, à la fin, sert à nourrir la population. Et c'est très très intéressant sur ce point-là.
Alors, nous venons d'écouter élèves et professeurs du lycée horticole de Blois. Maintenant, nous allons faire place aux interviews de maraîchers et horticulteurs aux alentours. Merci.
Élèves de première TCVG Horti du lycée horticole de Blois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des interviews sur la difficulté dans le maraîchage et les aléas du métier. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Je m'appelle Masato Fujisaki. Je suis maraîcher en Blois-Vienne sur la vaquerie. Et ça fait 2 ans que je suis installé là.
Est-ce que c'est difficile de trouver un terrain pour lancer votre exploitation ?
Alors oui, c'est un peu difficile. En fait, j'ai commencé en passant par la couveuse du lycée horticole, qui s'appelle l'espace test des prés d'amont. C'est une phase sur laquelle on peut tester son envie de faire du maraîchage en ayant du foncier et du matériel à disposition. Et ça permet d'être sûr qu'on veut vraiment faire ça avant de se lancer dans la recherche de foncier. Et en effet, heureusement que j'avais cette phase-là, ça m'a permis de prendre tout mon temps pour trouver du foncier. Donc là, je voulais m'installer proche de la ville de Blois. Et là, c'est la ville de Blois et la Chambre d'agriculture qui m'ont aidé à trouver ces terrains.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles les maraîchers sont confrontés dans leurs activités ?
Alors, il y a pas mal de difficultés. La première, c'est le temps de travail, quoi, qui est très conséquent, puisque, en tout cas, il y a énormément de choses à faire. Moi, je m'occupe de faire les semis, les plantations, les préparations de sol et la commercialisation. Tout ce qui est commercialisation, ça prend beaucoup de temps. Alors certes, ça permet de vendre un petit peu plus cher que si on vendait à un grossiste. Mais ça fait qu'on a des très grosses semaines, quoi.
Quels sont les avantages et inconvénients de la culture maraîchère par rapport à d'autres types d'agriculture ?
Alors, je dirais que par rapport à l'élevage, on a un petit peu moins d'astreintes. Mais on a quand même beaucoup d'astreintes qui sont liées à l'arrosage de la pépinière, à des récoltes quotidiennes à certaines saisons. Et quand on est en vente directe, à la vente qui doit être toutes les semaines, quoi.
Comment les maraîchers peuvent-ils surmonter les défis de la production maraîchère pour rendre leurs activités plus faciles et rentables ?
Alors, il y a plein de choses à travailler. Moi, ce à quoi j'aime bien réfléchir, c'est surtout l'ergonomie. Donc, on a une très grande variété de tâches sur une ferme maraîchère. et qui sont toutes physiques et répétitives. Et donc, il faut savoir trouver le bon matériel et les bonnes méthodes pour fatiguer son corps le moins possible.
Quelles sont les perspectives d'avenir pour les maraîchers face aux évolutions du marché et aux défis environnementaux ?
Oh là, c'est une grande question. Il y a plein de choses à travailler, quoi. Il faut, pour moi, faire connaître notre métier encore plus, faire comprendre tous les avantages que les clients peuvent avoir à acheter chez nous, à savoir avoir des légumes plus frais, à savoir faire vivre des emplois locaux. À participer à maintenir la biodiversité sur leur territoire, puisque là, moi, je cultive en bio ici. Et ensuite, bah, voilà, il y a le défi du dérèglement climatique là, qui, pour l'instant, bah, je ne sais pas trop comment ça va se passer, quoi.
D'accord. Et dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de se lancer dans l'activité maraîchère, compte tenu de cette difficulté et de ses aspects plus faciles ?
Alors, bah, bien sûr, il faut se former, soit avec une formation que proposent les différents établissements agricoles, les BPRA, tout ça. Mais il faut aussi voir une grande variété de fermes pour savoir ce qui nous plaît dans ce métier, quelle vision on a, enfin, quelle méthode nous plaise et nous déplaise, afin d'avoir un cap et de commencer son installation en ayant un maximum de références et de portes ouvertes, on va dire.
D'accord, merci beaucoup de votre intervention. Merci.
Alors, je suis Monsieur Papin Jean-Claude, je suis horticulteur depuis longtemps. Je suis la troisième génération qui est toujours au même endroit. Et voilà, on produit de la plante fleurie, plante à massif et plante potager. Voilà, on a changé notre façon de travailler suivant les décennies. On était avant très spécialisé, on faisait que quelques cultures et maintenant on est diversifié. Ah ben le terrain, disons qu'il y avait le terrain, c'était à mes grands-parents et après c'était à mes parents. Et on avait du terrain qui était en location, que sur une période de 20 ans, j'ai racheté à peu près 8000 m² de terre. Ben les difficultés, on a souvent les difficultés économiques dans le sens qu'on a des charges de plus en plus élevées. Un exemple, l'an dernier, l'énergie. On a eu le gaz qui a été multiplié par 3, c'est une 300% d'augmentation. Quand vous avez 1000 euros à payer, vous payez 3000. Quand vous payez 10 000, vous payez 30 000. Donc tout ça, là cette année, c'est à 200%. Donc ça vous pèse sur l'entreprise. C'est un exemple, voilà.
Et quels sont les avantages et inconvénients de la culture par rapport à d'autres types d'agriculture ?
Ah ben disons qu'on n'a rien à voir avec les agriculteurs céréaliers, tout ça. On est peut-être plus un peu apparenté à la pépinière, peut-être un petit peu au maraîchage, mais nous c'est l'énergie, les prix de vente, qui sont quand même assez... pressé par le prix du marché, voilà. C'est souvent ces choses-là, voilà.
Comment les horticulteurs peuvent-ils surmonter les défis de la production pour rendre leurs activités plus faciles et rentables ?
C'est souvent se moderniser. Après, si vous investissez trop, faut pouvoir rembourser. Et si le marché il est un peu compliqué, des fois, pour certains, ça leur a posé des grosses difficultés. Moi, j'ai investi beaucoup pendant 20 ans, entre 1995 et on va dire 2015 à peu près. Bon, maintenant, je n'investis plus. Mais quand vous avez un gros pourcentage à rembourser tous les mois par rapport à ce que vous touchez de bénéfices, ça peut être compliqué. Oui. Ben disons que je pense que l'avenir, c'est le consommateur qui le fera, en achetant les produits français. On est bien d'accord, hein, que les Français comprennent que s'ils veulent qu'il y ait des horticulteurs qui vivent encore, et puis aussi des petits maraîchers aussi, il faut qu'ils achètent les produits que les Français produisent. Voilà. Et c'est, enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Voilà.
D'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de se lancer dans l'activité compte tenu de ses difficultés et de ses aspects plus faciles?
Il y a déjà soit qui fait de la vente du gros, ça veut dire la vente à des grossistes, à des jardineries, ça me paraît compliqué, c'est souvent des investissements lourds. Ou alors après, je dirais que je ne serais pas pour le surinvestissement, voilà. Y aller progressivement. À une époque, quand on s'est installé dans nos métiers, à part certains qui étaient importants, on montait, je ne sais pas, une telle surface de serre. Et puis, quand c'était payé, ben, on attendait un peu, on avait de la trésorerie, puis on ragrandissait. On y allait au fur et à mesure. Si vous y allez tout d'un coup, ça peut être risqué, ouais, actuellement, à mon avis. Hein, après, parce que les débouchés, en gros, des fois, ils peuvent être volatiles. Hein, ça, vous avez un bon débouché, et puis... 5 ans après, je ne sais pas, on vous bloque pour les ventes et ça peut mettre des horticulteurs en difficulté. Puis nous, on est diversifié, donc s'il y a un problème sur une culture qui ne se vend pas, tout ça, on peut se rattraper sur d'autres. Voilà.
D'accord.
Mais il ne faut surtout jamais désespérer. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir.
Et pour finir, on peut voir que le métier de maraîcher et d'horticulteur est assez compliqué physiquement et mentalement. On peut constater qu'ils ont à peu près les mêmes difficultés, surtout par rapport au climat et l'aptitude physique. Et les consommateurs continuent de préférer l'exporter, donc les consommateurs préfèrent le moins cher, sauf plutôt que la qualité du produit. Mais si le consommateur achète que de l'exporter, le producteur aura moins de ventes, donc plus de difficultés pour sa production. Car sans argent, il n'y a pas de plan de production pour sa récolte. Merci de votre écoute.
Merci pour ce reportage. J'aurais quelques petites questions avant que vous en alliez. Pour vous, est-ce que vous vous verrez dans l'agriculture plus tard? Ou dans ce que vous en avez parlé, comme vous avez parlé des aléas du métier, quelques difficultés et tout ce qu'il y a. Est-ce que vous vous verrez dans ce métier-là plus tard?
Personnellement, oui, je compte je compte créer ma propre entreprise dans ce métier.
Moi, personnellement, non, mais plus dans le commerce.
Et moi, non plus.
Ok. Merci pour votre participation, merci d'être passé. Et on espère que ça vous aura plu.
D'accord, bah, merci à vous.
Au revoir.
Un applaudissement chez vous pour leur présentation.
Avec le climat, ça doit être vraiment compliqué quand même, non?
Ouais, ça, je te fais pas dire. Continuons maintenant, vu qu'on est encore sur le thème un petit peu de l'environnement, sur les problèmes, cette fois, non pas du maraîchage et d'horticulture, mais de l'environnement en général.
Avec Océane, Pedro et Léo, sur les exploitations des ressources avec un micro-trottoir hors du lycée.
Mettez-vous à l'aise et...
Bonjour!
Bonjour, je m'appelle Océane et avec Pedro et Léo, nous allons vous présenter notre reportage qui porte sur la surexploitation agricole. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la surexploitation agricole. C'est lorsque le prélèvement d'une ressource dépasse sa capacité à se reconstituer naturellement. Ce sujet est beaucoup exprimé par la politique avec le ministre de l'Agriculture, mais nous voulons savoir l'opinion des citoyens du Loir-et-Cher. Ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent. Pour cela, nous sommes allés interroger des passants dans la rue. Qui dit rue, dit vie, dit bruit, donc beaucoup de bruit dans les enregistrements.
Total vis-à-vis de ce que chacun dit.
Oui. Oui.
Total. Moi, je suis né dans une ferme en Beauce, par exemple.
Oui.
Et je peux vous dire qu'à une époque, on régénérait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on brûlait après la moisson, on brûlait tous les chaumes, on brûlait tout. Aujourd'hui, on les broie. Souvent, il est mis un peu d'azote dessus, ce que tout le monde critique, mais ce qui est le plus efficace, pour que la paille se décompose pour faire de l'humus dans le sol. Donc, il a été pris depuis bientôt 20 ans, je crois bien à peu près, une autre voie qui est, contrairement à tout ce qui est dit, qui est, je pense, plutôt la bonne voie, là. Avant, moi, je me souviens...
Dans les années 2, oui, à partir des années, on dirait 50 jusqu'à 80.
Ouais, on brûlait tout.
Voilà, tout était
propre. Hein.
Ouais, ouais.
Et là, c'était dramatique finalement. Vous croyez que c'était bien, mais c'était dramatique. Après, suite à certains incendies, moi je me souviens, mon père s'en était aperçu suite à une partie des chaumes qui avait été brûlée, pas à côté, puis il n'a pas brûlé le reste, c'était un incendie, c'est comme ça, un accident. Et il s'était aperçu que où il l'avait enfoui, enfin il avait fait un dixième du champ, et l'année d'après la récolte une fois plus belle. Voilà. C'est pour ça que les avis là-dessus peuvent être très controversés. Les personnes peuvent y répondre à ce oui. jour. D'ailleurs, les réponses données par suivant l'opinion de chacun, les réponses que donnent les gens, sont à mon avis très éloignées, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'une certaine réalité.
C'est vrai.
À mon avis.
Donc la deuxième question, parfait.
C'était qu'est-ce que vous pensez du coup de la surexploitation agricole?
Il faut en parler plus ou moins. Bah, en fait, voilà, il faut que tout revienne beaucoup plus normal, on va dire. Voilà.
Je pense qu'il y en a beaucoup moins.
Raisonner, on va dire, l'exploitation raisonnée.
C'est vraiment ce qui se dit.
Vous pensez que ça a diminué?
Ah ben, la surexploitation agricole a beaucoup diminué, oui. Oui. Beaucoup, beaucoup. Je pense. Parce qu'à une époque...
Oui, c'était un peu... on fait au bonheur la chance. Non.
Parler que ça produise.
voilà, maintenant il y a quand même la conscience. Voilà, les gens ont conscience du problème, je pense, la
oui.
plupart.
Oui.
Alors qu'à une époque.
Il n'y avait pas toutes ces questions de climat.
Mais non,
questions.
Au contraire, c'était même favorisé par tous les organismes agricoles et tout. Quoi, hein. Ça, c'était
voilà,
traité, oui, voilà, mettre beaucoup d'engrais, traiter. Voilà.
À outrance, alors qu'aujourd'hui, on n'en est plus là quand même.
Donc, on va vous parler de l'agriculture intensive de la Beauce, car cela est très pertinent pour les explications qu'on va vous donner. L'activité essentielle de la Beauce est l'agriculture. On y cultive principalement des céréales, donc du blé, du colza, de la betterave à sucre. La plaine de la Beauce est connue pour ses vastes étendues agricoles. On l'appelle parfois le grenier à blé de la France. C'est donc une région très fertile au cœur d'une agriculture très intensive. Le surplus d'exploitation de la Beauce effectué est pour subvenir à la surconsommation que les consommateurs effectuent, mais aussi pour nourrir la production animale.
Oui, vous voyez, par exemple, il y a un restaurant, je crois qu'il s'appelle les 300 grammes ou les 400 grammes.
Oui,
oui. Donc, on commande de la viande, on a 300 grammes de viande, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir de plus. Si je mange de la viande, moi, 100 grammes, ça
oui,
me
ça.
Suffit. Il ne faut pas promouvoir comme ça des
il faut manger de tout, quoi.
De viande.
Faut... La radicalité ouais. En gastronomie, non, quoi. Il faut manger de tout.
Ouais.
Les véganes, les végétariens...
Est-ce que vous adaptez du coup quand vous achetez un produit, si c'est on va dire bio, local?
J'essaie.
Ouais, moi aussi j'essaie.
J'essaie et quelquefois ben c'est pas possible. Donc j'essaie de pas prendre d'avocat d'Amérique
oui.
latine
oui.
ou hein, et on se rabat maintenant sur les avocats du Maroc ou ouais. d'Israël. L'Espagne c'est notre grand producteur de légumes hein, quand on va dans les supermarchés. Ouais.
Les personnes que vous avez entendues nous parlent de gaspillage alimentaire, d'un restaurant où les quantités sont trop importantes pour le besoin alimentaire de chacun. On a voulu savoir comment ont évolué les exploitations et le gaspillage dans le temps, mais cela est compliqué d'avoir une idée fixe et réelle, donc nous allons vous faire écouter un audio de... propos différents. Personnellement, je dirais qu'on a beaucoup épuisé nos ressources, mais que des personnes ont trouvé des moyens pour améliorer les exploitations agricoles, ce qui en vient à réduire certaines surexploitations.
Est-ce que vous trouvez que le Loir-et-Cher est un département concerné par la surexploitation?
Je vais dire oui, surtout pour les terres céréalières. Il faudrait peut-être pratiquer un peu plus d'agriculture raisonnée, pour faire une transition vers des choses beaucoup plus écologiques et respectueuses du sol et du sous-sol.
Oui. Par contre, je vais peut-être apporter un bémol. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Toutefois,
c'est un premier jet.
On peut se poser des questions sur les terres en jachère. Qu'on pourrait utiliser davantage les terres en jachère et moins répandre de l'engrais sur les terres cultivées. Voilà.
Okay. Oui. Parce qu'il y avait, dans le temps, au Moyen-Âge, il y avait un assolement triennal,
ouais.
ce qui permettait à la terre de se reposer, de se régénérer.
Ouais.
Et avec l'apparition de la jachère, est-ce que ça a été aussi efficace? Est-ce qu'on n'a pas perdu en termes écologiques, quoi? Faut voir, faut peut-être revenir à des choses plus simples et plus respectueuses. Remontons au Moyen Âge.
Oh, alors là, peut-être pas quand même.
Je la relève. Je compte sur vous.
Mais c'est vrai qu'on compte sur vous, les jeunes.
Merci.
Il a raison, ce monsieur. Il admire les jeunes.
C'est vrai.
Du coup, vous avez un peu répondu à la deuxième, mais je vais quand même la poser. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la surexploitation agricole?
C'est mauvais à la fois pour le sol et à la fois pour les gens, pour la santé. Et c'est vraiment une question sanitaire importante. Mais je me demande si en France, les questions importantes qui touchent à l'aspect sanitaire sont prises au sérieux par nos gouvernants. J'ai un gros doute et je me demande si on va s'en sortir.
Ah oui.
Mais je vais mettre encore un peu. Je veux dire, rien n'est simple. Nous sommes 1 milliard, 7 milliards, plus de 7 milliards d'habitants. Voilà, voilà, on va arriver au
8. On a 8
c'est
là.
Une horreur. Oui. C'est une horreur.
Je suis partie à 7 millions de 7
Il va falloir nourrir tout le monde. Et alors, à quel prix? Voilà, il va falloir se poser aussi des questions sur cette diarrhée démographique. Je suis désolée de l'appeler comme ça, mais elle s'appelle aussi comme ça. Qui fait que on détruit la faune, la flore, hein. L'homme détruit tout. Et puis peut-être consommer beaucoup moins de viande. Moi, je pense que ça peut être aussi une solution de faire des cultures, des céréales pour les hommes et non pas pour les animaux qui ensuite... Voilà.
Pour conclure sur la surexploitation en agriculture, on a recherché comment y remédier. Elle peut être atténuée en adoptant des pratiques durables, telles que la rotation des cultures, la gestion des sols, ainsi que l'utilisation des engrais verts qui enrichissent le sol. Tout ça peut du coup aider à que les sols soient mieux entretenus. Merci de votre écoute, en espérant que vous avez passé une bonne après-midi. Si vous avez des questions, je suis...
Oui, j'aurais des questions. Est-ce que sur le sujet que vous avez travaillé, vous avez pu avoir des solutions personnelles, genre des solutions que vous avez dit, ah, pourquoi pas, on n'essaierait pas ça?
Plutôt sur notre consommation personnelle, c'est les courses. On a entendu plusieurs avis, mais le bio, le local, il faudrait peut-être plus se pencher dessus quand on fait nos courses. Après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément en Intermarché. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment bio ou pas, mais faut mieux prendre ces produits-là.
Moi,
je n'ai plus de questions.
T'as plus de questions. Bon, merci de votre participation
et
de votre
reportage.
Bon courage
et bonne journée.
Merci. On vous libère. Je pense qu'il y a quelqu'un d'important qui attend Océane, donc on va vous libérer. Et bon après-midi à vous.
Au revoir. C'était mon idée. Tout de suite, on enchaîne avec un quiz fait par Mathis sur sur
la production
lumineuse. Accueillons également Faustine et Luerne pour y répondre.
C'est parti.
Messieurs, mesdames.
Veuillez prendre place, vous inquiétez pas, il y a de l'espace. Mathis, de quoi vas-tu parler en général sur ce quiz-là? Explique-nous un peu.
Ce quiz, bonjour à tous. J'ai fait un quiz sur la pollution lumineuse avec mes deux invités ici présents, qui se sont dévoués pour moi. Ce sera la pollution lumineuse, il y aura 7 questions et il y aura des points à la fin du quiz.
Ok, donc on passe le micro à Luerne et tu vas pouvoir commencer ton quiz.
Première question, Luerne. Quelle est l'une des sources de la pollution lumineuse dans les propositions suivantes? La lumière des lampadaires, le soleil ou le feu?
La lumière des lampadaires.
Bah oui, c'est une bonne réponse, c'était très simple. Ouais. C'est une des premières questions, très simple. Deuxième question. Quand est apparu le premier éclairage public, Faustine? Voici 3 propositions. Au 18e siècle, au 19e siècle ou au 20e siècle?
Moi, je dirais au 19e.
C'est une bonne réponse. Le premier éclairage public est apparu en 1818. Passons à la troisième question. Quand a commencé la pollution lumineuse? À la création du feu, de l'électricité ou aucun des deux?
Moi, je dirais l'électricité.
Et c'est une mauvaise réponse. Elle est arrivée à la création du... C'était à la création du feu il y a des milliers d'années.
D'accord.
Passons à la quatrième question. Attention, elle est plus compliquée, celle-là. Bonne chance, Austin. Quel est l'appareil qui permet de mesurer la pollution lumineuse? La boussole solaire, le flashmètre ou le luxemètre?
Luxemètre.
C'est une bonne réponse.
Oui, je sais.
Alors pour vous dire, la boussole solaire est un instrument de navigation. Le flashmètre est un accessoire photographique, alors que le luxemètre, c'est un appareil pour mesurer la quantité de lumière dans un environnement donné. Luerne, êtes-vous prêt pour la cinquième question ?
Oui.
Quelle est l'échelle sur laquelle on mesure la pollution lumineuse ? L'échelle de Richter ? L'échelle de Bortel ? Ou l'échelle de Newton ?
L'échelle de Bortel.
Alors oui, c'était bien ça. C'est bien l'échelle de Bortel. Elle mesure le niveau de luminosité du ciel nocturne dans un endroit déterminé. Alors que les deux autres, l'échelle de Newton, elle permet de mesurer la température. Et l'échelle de Richter permet de mesurer les ondes sismiques, l'énergie des ondes sismiques. Question suivante, Faustine. Quand a-t-on entendu parler de la pollution lumineuse pour la première fois ? En 1950, en 1970 ou en 1990 ?
Je dirais en 1960.
Non, il n'y a pas ça dans les propositions. C'est 1950, 70 ou 90 ?
Du coup, 1990.
Et c'est une mauvaise réponse. Elle a apparu en 1970. Et place à la dernière question pour Luerne. La pollution lumineuse a-t-elle un impact sur notre santé ? Oui ou non ?
Sûrement, oui.
Alors, j'ai donné deux propositions, merci.
Oui.
Et c'est une bonne réponse, elle provoque des troubles du sommeil. C'est un exemple.
Merci à Mathis pour cette participation. Et pour ceux qui auraient suivi, on aura un total des scores de
3 pour Luerne et 2 pour Faustine.
Donc applaudissons Luerne d'avoir gagné ce petit quiz.
GG Luerne.
Trêve de bavardage. Le dernier groupe à passer sera Paco et Lucas, qui nous parleront de la Loire-et-Cher,
de la Loire et ses dangers.
Excusez-moi, c'est la fin de semaine, on est vendredi après-midi. Vous pouvez comprendre que la fatigue est
à son maximum. C'est la digestion, vous en faites pas.
Les garçons, à vous.
Bonjour, je m'appelle Lucas.
Bonjour, je m'appelle Paco.
Nous allons vous présenter un fleuve que tout le monde connaît. Il s'agit du dernier fleuve sauvage d'Europe. Mais qu'est-il, Paco, peux-tu nous en dire plus ?
Nous allons commencer par vous faire la description de la Loire. Elle mesure 1016 km de long. Elle prend sa source dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Ardèche. Nous parlons bien sûr du mont Gerbier de Jonques.
Elle se jette dans la région Pays de la Loire, dans le département de la Loire-Atlantique, la ville de Saint-Nazaire, plus précisément dans le golfe de Gascogne. Au total, elle traverse 4 régions de France. Ces régions sont les suivantes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la région Centre-Val-de-Loire et la région Pays de la Loire.
Ce fleuve a connu des hauts comme des bas. Son plus haut niveau est de 7,12 m. Ce niveau a été relevé à Gien, dans le département du Loiret. En revanche, elle a aussi connu des bas comme en août 2022 où les bateaux qui ont été sur la Loire touchaient le fond tellement le fleuve était bas.
Elle mesurait 30 cm à Orléans, capitale du Loiret. Sur ce fleuve, nous pouvons retrouver des coins de paradis tels que des îles boisées, des bancs de sable, des îles désertes et de la végétation.
La Loire a souvent été qualifiée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe. Depuis des années, le fleuve se fait cerner entre les levées pour se prévenir de ses crues et faciliter la navigation. Ce fleuve a sans cesse été aménagé pour éviter des catastrophes, comme des crues ou des fortes sécheresses. J'avais envie de vous parler de l'initiative d'une personne qui a cherché à préserver la Loire. Dans un article du Progrès datant de 2021, j'ai lu un reportage sur Anaëlle Marot. L'article s'intitule « Pollution, un aller-retour le long de la Loire pour ausculter le fleuve ».
L'aventure a commencé le 2 mai 2021. Anaëlle Marot est partie à pied du mont Gerbier de Jonques, source de la Loire, puis a continué en kayak jusqu'à l'estuaire du fleuve. Elle est arrivée le 11 juillet à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. après avoir parcouru environ 1200 km.
Au cours de ce périple, Anaëlle Marot a fait peu de bivouac. Elle a été principalement hébergée chez des particuliers et s'est beaucoup approvisionnée sur les marchés locaux.
Anaëlle Marot a organisé plusieurs ramassages de déchets sur son parcours. Au total, ce sont 543 kg de déchets sauvages qui ont été collectés. L'opération a enregistré 206 participants à travers 22 associations locales en 10 collectes. Le voyage a continué avec la remontée à vélo qui a démarré le 1er août de Saint-Brévin-les-Pins.
Anaëlle explique dans l'article que le but est de sensibiliser sur les pollutions plastiques et chimiques dont souffre le plus grand fleuve de France. 80% des plastiques qui se retrouvent dans le continent de plastique situé au nord-est de l'océan Pacifique proviennent des terres via les fleuves.
La descente puis la remontée permettent de connaître le but de connaître le fleuve, sa biodiversité et d'identifier les formes de pollution. Le but est de trouver des solutions pour réduire la pollution en fédérant tous les acteurs par une action collective.
En conclusion, nous pouvons dire que la pollution sur la Loire est une problématique à nos jours. Il faudrait essayer de trouver des solutions plus adaptées pour éviter que cela empire et se répète, et surtout représente un risque pour la vie des personnes.
Très intéressant les garçons, je pense que Nausicaa, tu auras quelques questions à poser ?
Non, je pense qu'ils ont tout dit sur la Loire.
J'espère que leur intervention aura été très intéressante pour vous. Personnellement, on l'a écouté avec attention.
Merci.
Et merci encore à toi, merci encore à vous d'être passé présenter ce sujet-là.
Merci beaucoup.
Et si jamais vous auriez encore des questions sur le sujet qu'ils ont présenté, il y a une superbe vidéo avec, je ne sais pas si vous connaissez, C'est pas sorcier, qui explique en détail la Loire et ce qui se passe avec. Franchement, je l'ai regardé, c'est vraiment très très intéressant. Avec Jamy Gourmaud et Frédéric Courant. Donc je te laisse la parole, Nausicaa.
Eh ben, merci pour ce partenariat avec C'est pas sorcier. cher Marc, je tiens à te faire remarquer que notre émission touche à sa fin.
Oh, quel dommage.
Eh oui, hélas. Mais on ne laisse pas les auditeurs comme ça. On dit au revoir aux auditeurs et place au groupe de musiciens du lycée. Avec un enregistrement de leur...
Non. Ah, pas non les, le groupe musical, les Poudouski. T'as oublié le
nom. Les Poudouski, excusez-moi. Je vous coupe juste avant. Maman, je t'aime, je te fais une petite dédicace.
Ça fait la deuxième.
C'est à vous. Mais la première à couper.
On va vous interpréter une musique qui s'appelle Alone Again de Gilbert O'Sullivan.
Merci.
Feeling any less sour, I promised myself to treat myself and please I don't know by now. I'm climbing to the top, I show myself off in an effort to appear to. I want to know when you're shy, so left standing in the light.
Alors, merci encore à tout le monde d'avoir participé. Merci Mathis, merci Lucas, Pacom, Océane, Pedro, Julia, Grégor, Luna, Faustine, Antoine, Khadija, Rose, Lucie, Léo, Luerne, Louis, Loan, Nausicaa à ma gauche et moi-même.
Toi aussi, Marc.
Merci aussi à tous les invités qui ont été là à présent.
Et merci surtout à Clémentine qui gérait la prod et à Madame Daprato qui nous a tous encadrés.
Salut tout le monde, dédicace à la famille de Faustine.
Maman, je t'aime.
Talk about God and His mercy, oh, if He really does exist, why did He desert me in my heart? Truly, I'm indeed alone again.
Merci à Louane. Désolé de t'avoir oublié, Louane. On s'excuse sincèrement. Et je pense que tu ne nous en voudras pas.
On t'aime
quand même.
Et dédicace à ma tata. Me engueule pas.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Looking back over the years, whatever else that appears, I remember I cried when my father died, he never wished to dry the tears. I was 65 years old, my mom got dressed and sold, to be understood, but the moment she had ever loved, I'd been taken, leaving her to starve, leave her heart so badly broken, despite the encouragement of only, no one would ever stop. She passed away.